L'heure du LEM a sonné, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, avec aujourd'hui des femmes de la littérature et de la Bretagne.
LEM, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans le magazine, l'émission, autrement dit LEM. Et parfois, la radio se consacre à la lecture. C'est le cas aujourd'hui puisqu'on va retrouver avec bonheur une de nos anciennes bénévoles qui a réalisé il y a deux saisons l'émission Histoire de matrimoine. Gaëlle Perel, c'est une femme de lettres. Pour l'instant, elle s'est surtout intéressée aux écrits des autres. Elle a travaillé dans l'édition, elle a même été libraire, puis coordinatrice de l'Association des cafés-librairies de Bretagne. Et puis, elle a repris ses études en constatant que dans ce secteur de la littérature, comme dans tant d'autres domaines, les femmes étaient souvent, comment dire, tombées dans l'oubli, y compris quand elles avaient brillé, quand elles avaient reçu des prix. Gaëlle Perel a d'abord publié « Femmes de lettres en Bretagne, matrimoine littéraire et itinéraire de lecture ». C'était aux éditions Guater, les mêmes éditions où elle a créé avec Jean-Marie Guater une collection, les Universelles. On la retrouve aujourd'hui dans ce LEM enregistré pour toutes ces raisons. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Véronique.
Alors on va commencer par redéfinir ce qu'est le matrimoine littéraire en Bretagne, c'est ça hein ?
Tout à fait. Alors, le matrimoine littéraire en Bretagne, c'est un corpus qui rassemble toutes les femmes qui ont écrit en lien avec la Bretagne. Donc, elles peuvent être bretonnes, elles peuvent être bretonnes et avoir vécu à l'extérieur des frontières de la Bretagne, ou elles peuvent être née ailleurs qu'en Bretagne et avoir vécu sur notre territoire pendant un temps.
Alors, on pourrait remonter à la nuit des temps, enfin, en tout cas à l'invention de l'écriture, mais bon, là, en l'occurrence, enfin, en ce qui te concerne, ça n'est pas remonté si loin.
Non, alors moi, le champ d'études qui est le mien commence avec Fanny Raoul en 1801, donc c'est vraiment ce qu'on appelle en histoire la période contemporaine. Et je remonte le fil jusqu'à la scène littéraire d'aujourd'hui, qui compte énormément de talents féminins.
Mais oui, on va y revenir. Mais alors, cette Fanny Raoul, qui est-elle ?
Alors, Fanny Raoul, elle est née à Saint-Paul de Léon, dans les années 1779, de mémoire. Et elle écrit très vite. Très vite, elle s'engage dans l'espace public avec son écriture. Et donc, Opinion d'une femme sur les femmes, c'est un essai qu'elle écrit en 1801, qui est publié donc la même année. Et dans lequel elle évoque notamment, il y a beaucoup de thèmes abordés, mais elle évoque notamment la place des femmes dans la gouvernance hein, de cette nouvelle France qui advient de la Révolution, et puis aussi de l'accès des jeunes filles à l'éducation, aux carrières des arts et des sciences.
Parce qu'elle, en fait, si elle sait écrire, c'est qu'elle vient quand même d'un certain milieu, j'imagine, Fanny Raoul.
Alors son père et son frère sont des hommes de droit. Je crois que la mère, malheureusement, décède en couche. Donc, elle est portée effectivement par ce milieu bourgeois dans lequel elle naît. Et elle a elle saisit ce souhait qu'elle avait de compter en tant que citoyenne. Mais c'est vrai qu'elle est aussi, on sent, portée par une éducation et portée par une volonté paternelle de la laisser écrire ce qu'elle a envie d'écrire.
Oui, et puis à l'époque, les femmes ne travaillent pas. Je suppose qu'elles ne travaillent pas.
Alors Fanny Raoul, on en sait peu, on commence à connaître de plus en plus de choses sur elle. C'est souvent ça d'ailleurs, hein, pour les femmes des 19e et début 20e, on a des biographies malheureusement souvent parcellaires. Je pense qu'elle était gouvernante d'enfants quand même. Elle devait à mon avis travailler malgré tout, dans des familles certainement nobles ou très bourgeoises. En tout cas, ce qui me fait penser à ça, c'est que quand elle écrit un roman qui s'appelle un roman épistolaire, qui est très beau d'ailleurs, qui est intégralement disponible sur le site de la BNF, quand elle écrit Flamini ou les erreurs d'une femme sensible, la jeune fille qu'elle met en scène est gouvernante.
Et alors, dans ce petit opuscule, donc c'est Opinion d'une femme sur les femmes, qu'est-ce qu'elle dit ?
Alors, ce que je disais tout à l'heure. Alors déjà, rendons hommage à l'historienne Geneviève Fraisse, philosophe et historienne, qui a redécouvert ce texte au moment du bicentenaire de la Révolution en 1989. qu'il a une première fois édité au Passager clandestin en 2011, et puis on l'a réédité là en 2024, toujours au Passager clandestin, qui est une très belle maison d'édition qui est installée à Lorient, pour les situer.
On les salue.
Fanny Raoul, donc elle évoque vraiment, pour elle, c'est très important qu'une femme participe à la vie de la société, donne son opinion, donne son avis. Et d'ailleurs...
Même s'il n'est pas encore question de droits de vote des femmes, hein, à l'époque. Hein. Ça a été évoqué peut-être par les révolutionnaires vite fait. Mais...
Ça a dû être très vite fait, évoqué.
Vite refermé.
Je rappelle qu'on a été très vite, voire tout de suite exclu de l'Assemblée nationale.
Bizarre. Hein.
Et qu'elle l'édite en 1800, n'est pas très loin de 1804, qui est l'adoption funeste du code civil napoléonien.
Donc très féministe, comme chacun sait.
Voilà. Alors, ouais. C'était peut-être une toute petite brèche dans laquelle elle s'engouffre. Non, elle pense vraiment, et elle exhorte d'ailleurs les femmes à prendre la parole, à se saisir du politique dans le sens citoyen, citoyenne du terme. Et donc elle le fait. Donc on va dire que les grands thèmes d'opinion d'une femme sur les femmes, c'est... effectivement cette question de la place de la femme dans le débat public, dans la gouvernance et aussi la manière qu'on a d'éduquer les filles. Est-ce qu'on continue à les éduquer comme des petites poupées n'auront pas d'autonomie, ou est-ce qu'on pose cette question importante et vitale pour les femmes, de les éduquer et de les faire accéder à des carrières dans les arts et dans les sciences. Et ça, c'est vraiment un débat qu'elle pose.
Et c'est très moderne, on se rend compte qu'on a toujours ce débat en ce qui concerne l'accès des filles, des femmes aux métiers scientifiques et techniques. Donc, quand elle pense science, elle pense à quoi, Fanny Raoul?
Alors, elle ne rentre pas forcément dans le détail. Voilà. Elle est plus dans ce passage, elle est plus là pour dénoncer les a priori qui existent sur les jeunes filles et notamment le fait qu'on va plutôt les inciter à prendre l'aiguille que...
Que le cerveau ne serait pas fait pour faire des maths, de toute façon,
voilà.
Apparemment.
C'est vraiment un terme, quand elle dit carrière des arts et des sciences, c'est un terme générique qu'elle pose, elle n'a pas pisté des carrières précises. Mais en tout cas, elle dit bien que les femmes sont tout à fait en aptitude à la fois de faire des métiers qui comptent, d'accéder aux études qui y amènent, et puis de compter aussi comme citoyenne. Elle dit d'ailleurs, je dis même que la réforme d'un peuple doit commencer par les femmes, et notamment leur place dans la gouvernance. Et c'est tout ce qui va justement ne pas advenir pendant les quelques, on va dire jusqu'à 1965, date à laquelle on accède à une plus grande autonomie citoyenne, et puis évidemment juste avant 1944 avec le vote des femmes.
Qu'est-ce qu'elle est devenue? Enfin, elle a continué à écrire, j'imagine.
Fanny Raoul, elle a eu une vie... sur un plan biographique, on connaît pas tout. En tout cas, en termes d'écrivain, d'autrice, elle est très prolixe, donc elle est essayiste, elle est dramaturge, elle est romancière et elle est aussi journaliste. Elle va, dans les années 1814-1815, fonder son propre journal qui s'appelle Le Véridique.
Ah oui, quand même.
Qu'on peut lire intégralement. Tous les numéros sont archivés à la BNF. J'ai eu le loisir de lire. Et donc,
Le Véridique, c'est beau, à l'ère de la post-vérité, voire du complètement faux. J'adore.
Et puis en plus, ils sont... des numéros qui tous sont un peu calqués sur le même modèle. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux affaires internationales depuis Paris, où elle habite. Elle va aussi s'intéresser aux affaires intérieures. Et puis, il y a des pages culturelles sur les spectacles à voir, les livres à lire, etc. Et elle a même un courrier de lecteur. Donc,
elle est toute seule à faire tout ce journal.
Elle est toute seule à faire.
Ah oui. Et c'est quoi? C'est un quotidien? Un hebdo?
Non. Il y a eu très peu de... Enfin, il y a... De mémoire, parce que oui, c'est un hebdomadaire, mais
il y a
des interruptions,
de
etc.
C'est tout ça,
mais elle va dénoncer l'esclavage, elle va dénoncer vraiment plein de choses. Elle a un côté très, très, très engagé et très engagé dans le débat public.
Bah, une influenceuse, comme on aurait pu dire à l'époque, si le terme avait existé. Est-ce qu'on a conservé tous ces écrits, les écrits de Fanny Raoul ou pas?
Beaucoup sont conservés à la BNF. Donc Flamini ou les erreurs d'une femme sensible est vraiment disponible in extenso sur le site de la BNF. Il y a plusieurs de ses articles qui interviennent. Bon, elle a aussi été dans des histoires polémiques de plagiat de ses œuvres, etc. Donc il y a plein de choses autour de Fanny Raoul effectivement qui existent et cet opus qui commence. Mais c'est vrai que Flamini ou les erreurs d'une femme sensible mériterait vraiment d'être réédité. Et puis le véridique, bon, c'est vraiment un outil historique passionnant, mais ça, voilà,
oui. On va pas l'éditer, mais bon. Mais à propos d'édition, il existe une collection aux éditions Guater qui s'appelle Les Univers. Celle qui commence à avoir un ou deux ans, non ?
Et que les premiers titres ont paru en 2023, trois ans.
Que tu diriges, c'est ça, on peut dire
oui,
ça hein.
Oui, que je co-dirige avec Jean-Marc Perel
dirige, oui. Voilà. Et qui compte désormais quatre ouvrages, c'est ça ?
Oui. Enfin,
comment, alors, il faut rappeler comment ça a commencé, comment ça a été lancé et pourquoi cette collection ?
Oui. Alors, en fait, tout a commencé par l'inventaire en 2011 des autrices en Bretagne. Voilà de quoi on parle. Donc j'ai commencé à les compter sous l'égide de la Fédération des Cafés Librairies de Bretagne pour laquelle j'étais à l'époque coordinatrice. Et on a décidé, avec d'autres partenaires en région, dont la région, mais aussi la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité, d'inventorier les autrices. Là, je découvre qu'elles sont très nombreuses. Donc je décide deux ans plus tard de retourner sur les bancs d'université, de leur consacrer un mémoire et surtout de mettre en perspective cet objet matrimonial, de qui on parle, est-ce qu'elles sont en nombre, etc. Donc effectivement, elles sont très nombreuses depuis le Moyen-Âge. Moi, mon champ de recherche, c'est vraiment l'époque contemporaine, mais elles existent depuis le Moyen-Âge. Et donc, je peux, à l'issue de cette année d'études, confirmer qu'il y a bien l'existence d'un patrimoine littéraire en Bretagne qu'on additionne au patrimoine littéraire en Bretagne. Et donc, Jean-Marie Guater tient un catalogue extrêmement éclectique, très riche, mais aussi très, et depuis longtemps et depuis toujours, très égalitaire, avec vraiment des axes éditoriaux très marqués sur la place des femmes dans l'écriture. Et donc, il s'est intéressé à ce travail-là et on a créé l'anthologie « Femmes de lettres en Bretagne » qui est parue en 2020 de mémoire, 2020-21. Et à l'issue de laquelle, on s'est dit si on va jusqu'au bout de notre démarche, ce serait bien qu'on crée une collection consacrée à la réédition des textes vraiment importants de ce matrimoine.
Donc réédition, ça veut dire que quand même ces femmes ont été éditées à un moment ou à un autre de leur histoire.
Toutes les femmes qu'on évoque dans l'anthologie ont été éditées.
Bon.
Et ont été très importantes à leur époque.
Elles ont eu des prix d'ailleurs parfois. Mm. Ouais. Et donc la première alors qui a été choisie ?
Alors on a fait deux fois deux autrices. Donc les deux premières qu'on a éditées, c'est Anne de Tourville pour Jabadao, qui elle obtient pour ce roman-là le prix Femina 1951. Et en fait, c'est un roman très riche. Alors, Jabadao, hein, pour les Finistériens, Finistériennes, c'est une danse, la danse du diable. Mm. Et en fait, c'est l'histoire d'un village qui est vraiment coupé en deux par un pont, qui s'appelle le pont des Écrevisses d'ailleurs, qui sépare les riches des pauvres. Voilà. Donc on est vraiment sur l'héritier du roman va avoir la très mauvaise idée de franchir le pont et de tomber amoureuse de la jeune fille pauvre.
Ah bah oui.
Donc ça va créer un grand jabadao parce que c'est un grand chambardement,
un bazar, un grand bazar.
Et en fait c'est pas pour rien qu'Anne de Tourville l'écrit en 1951. On sort de la Seconde Guerre mondiale et vraiment ce roman est une invitation à repenser notre lien social. Privilégier l'amour à l'argent, moi ça me va pas mal. Repenser notre lien à la nature. Il y a beaucoup les personnages sont vraiment ancrés dans la nature. Et donc il y a plein de thèmes actuels qu'on retrouve dans Jabadao. Et en plus, elle a une écriture mais incroyable. Donc c'est à la fois un conte, mais c'est surtout une réinvention sociale à penser ensemble. Et très belle écriture et un humour très vachard.
Bon, alors ça c'est Anne de Tourville. Et la seconde qui a été éditée en premier dans la collection Les Universels de Guater, c'est...
Alors là, c'est un roman absolument passionnant d'Yvonne Meynier. Donc Yvonne Meynier fait partie de ces rares femmes à avoir un de ces noms, une des rues de Rennes porte le nom d'Yvonne Meynier et de son mari. Elle a joué un rôle important à partir de 1938 dans la vie culturelle à Rennes et elle s'installe, elle vient de la Creuse. Et elle s'installe en 1938 avec son mari qui est professeur de géographie à l'université de Rennes. Elle s'installe à Rennes en 1938 avec ses trois filles. Donc un lycée pas comme les autres, c'est un roman épistolaire mais qui est vraiment nourri de leurs souvenirs des années de guerre entre Rennes et la Guerche, donc en Ille-et-Vilaine. Parce qu'à ce moment-là, en 1943, Rennes commence à être pilonnée par les Alliés en vue de la libération. Et la mairie décide d'éloigner tous les jeunes. Et donc les filles vont partir à la Guerche, vont être scolarisées à la Guerche, qui se situe à 40 km à l'est de Rennes. Et ce sont 600 filles qui vont être déplacées. Hein. C'est pas rien, c'est un petit village, la Guerche. Et là, dans ce roman, Odette et Yvette, les deux sœurs collégiennes et lycéennes, vont pendant un an échanger une correspondance avec leur mère. Et à la fois, c'est un très beau roman d'amour filial, et en même temps, c'est un lieu de mémoire parce que ça raconte vraiment ce qui s'est passé à hauteur d'adolescente pendant cette année 1943-1944.
Un roman documentaire, si on veut, en fait.
Ben, y a un peu de ça. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Un roman. Hein, on reste dans le roman. Mais tous les événements qui sont évoqués sont vrais. Voilà. C'est vraiment du vécu et on le sent. Et en fait, ce qui est aussi très touchant dans cette histoire du roman, c'est que donc il y a Odette et Yvette et leur petite sœur Dani. Elle reste avec ses parents à Rennes. Et Dani, elle naît en 1938. Donc c'est la petite fille pendant le roman. Et c'est Dani qui, il y a deux ans, nous a accordé les droits de réédition du livre. Donc, c'est pas rien quand même d'avoir affaire à un personnage de roman qui est en fait une vraie personne et qui en plus nous accorde sa confiance pour une réédition.
Donc, redis-nous le titre et le...
Ça s'appelle Un lycée pas comme les autres. Ouais. Yvonne Meynier qui, à son époque, en 1962, est édité chez Rouge et Or, qui est une maison d'édition emblématique, et qui reçoit le Grand Prix de la littérature jeunesse alors.
Ah oui, elle a eu un prix aussi.
Oui.
Et alors, la deuxième salve de la collection Les Universels chez Guattère...
Donc, c'était en 2025.
Ouais, c'est récent, voilà. Même si on n'en a pas parlé en temps et en heure, mais on est comme ça sur Transistor.
Oui, oui.
Qui sont-elles, ces deux nouvelles élues?
Alors, deux élues, Colette Cosnier. Colette Cosnier, elle est originaire de la Sarthe, mais elle va marquer l'histoire universitaire de Rennes, notamment. Et elle fait partie, dans les années 1970, de ces universitaires qui vont valoriser le travail des femmes. Donc elle est professeure en littérature et elle va valoriser notamment les travaux d'Anaïs Nin, enfin de plein de toutes ces femmes. Et par ailleurs, elle écrit et elle va écrire une pièce de théâtre qu'elle va consacrer à Marion Dufaouët. On est dans les années 1970 et c'est vraiment un point de vue d'une autrice dramaturge qui va remettre en scène un personnage avec évidemment une vision féministe.
Ah oui. Parce que Marion Dufaouët, c'était une brigande, c'est ça? On pourrait dire
c'était
ça comme
brigande,
ça.
C'était la Robin des Bois de Bretagne.
C'était vraiment une Robin. Enfin, elle œuvrait vraiment pour les plus pauvres, pas pour son propre compte.
Alors la légende veut qu'effectivement il y a cet aspect généreux, mais enfin il y avait des intérêts. Voilà. Et puis je veux dire, c'était des questions de survie aussi
c'est
à
ça.
L'époque.
Ouais.
Hein. Et Colette Cosnier, donc, elle propose cette réécriture et là c'est pas moi qui ai piloté ce titre, c'est Patricia Godard qui œuvre sur plein de choses très intéressantes en lien avec le féminisme sur Rennes et qui a écrit une très belle biographie de Colette Cosnier et donc qui est édité par Jean-Marie Guattère et donc c'était elle avait toute sa place dans la collection. En revanche, j'ai accompagné la réédition de Élie Fils des Bois, roman de Marie Lefranc, autre récipiendaire du prix Fémina, qu'elle obtient en 1927 pour un autre de ses romans qu'on va éditer, Grand Louis l'Innocent. Mais là, on a édité Élie Fils des Bois.
Élie Fils des Bois. Alors, juste une parenthèse sur Marion Dufaouët, c'est donc une pièce de théâtre. Ça veut dire que.
C'est une pièce de théâtre.
Que les Universels vont publier pas seulement des romans.
Non.
Ouais, ok. Mmh. Et alors, Marie Lefranc. Pareil, il faut rappeler qui c'était et puis pourquoi le choix de ce livre-là.
Alors, Marie Lefranc, Marie Lefranc, elle fait partie de ces autrices qui naissent au moment de la Troisième République, tout début de la Troisième République, comme Jeanne d'Arc, que j'espère évoquer tout à l'heure.
1870, enfin, 72 peut-être, non ?
Voilà, Marie ouais. Lefranc, elle naît en 1879 à Sarzeau, dans le Morbihan. Et elle devient institutrice de la Troisième République. Donc on parle toujours des hussards noirs de la République, mais elle est une des hussardes noires de la République. Elle va tomber amoureuse d'un Canadien par voie épistolaire. Et en 1906, donc elle a 27 ans, elle quitte la Bretagne pour retrouver son amour épistolaire. Je la fais courte, ça se passe très mal. Elle est toute seule. Et
Il fait froid.
Il fait très, très, très froid. Et elle, en fait, elle va décider de rester au Canada, où elle va être non plus institutrice, mais professeure dans différents établissements canadiens. Et elle va commencer à écrire au Canada, d'abord de la poésie, et puis ensuite un premier roman, Grand Louis l'Innocent, pour lequel elle aura le prix féminin en 1927. Et elle va passer toute sa vie entre la France et le Canada. C'est vraiment deux pays importants pour elle. Et au Canada, elle est connue. Hein. Elle est connue parce que, justement, Élie Fils des Bois est un roman qui se passe dans les Laurentides, qui honore pour les Canadiens la mémoire des Laurentides dans les années 1930. Et on a un des lacs de la région des Laurentides qui porte le nom de Marie Lefranc.
Ah oui, quand même. Mm. Et donc, c'est une région... Enfin, il est beaucoup question de nature. Est-ce que le titre nous indique un rapport à la nature particulier ou pas vraiment ?
Alors, Marie Lefranc sont souvent des personnages de femmes émancipées qui vivent seules. Donc, elle a vécu seule. Et là, en l'occurrence, c'est une jeune femme qui arrive dans les Laurentides et qui va être accompagnée dans sa découverte des Laurentides par Élie, qui est un guide, voilà, et qui va vraiment, effectivement, lui faire découvrir cette région. Et en fait, Marie Lefranc, c'est exactement ça, c'est une avant-gardiste de toutes ces autrices qui plongent leurs personnages dans la nature, et je dirais même que chez Marie Lefranc, la nature, le vent, tous les éléments naturels sont des personnages à part entière qui s'incluent dans la narration et dans lesquels les personnages sont vraiment pleinement immergés. C'est une écriture absolument magnifique, très contemporaine, très moderne. Et donc Marie Lefranc, c'est vraiment une autrice à découvrir absolument sur ce roman et tous ses romans. Donc nous, on a deux autres romans à venir.
Ben voilà, c'est la question que j'allais poser. La fréquence de parution de la collection Les Universels, c'est quoi ? Deux tous les ans ? Deux tous les deux ans
Alors y a, voilà, le catalogue de Jean-Marie est très riche, très éclectique, etc. Donc là, depuis 2023-2025, on a édité 4 livres. On espère en éditer au moins 2 cette année. Voilà, mais
Ça sera quoi alors en 2026 on sait déjà où c'est
alors,
trop tôt.
Alors non, on est en pleine discussion.
Ah oui. Et ça serait encore... Marie Lefranc aurait encore sa place enfin,
Ah bah Marie Lefranc...
Dès 2026, non peut-être pas quand même.
Si, parce que quand même, Grand Louis l'Innocent, qui est son prix féminin, serait vraiment bien qu'on le réédite. Tout ça est de l'ordre de la discussion. Et il y a tellement d'autrices à rééditer. Donc effectivement, on va devoir faire des arbitrages là, d'ici le printemps.
Oui, et le fait d'avoir comme ça une belle collection, enfin des beaux ouvrages, est-ce que ça incite, par exemple, les enseignants à faire étudier ces autrices à l'école ? Est-ce que vous avez pu constater ça aux éditions Guater ?
Alors nous, on l'a fait exactement dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'on a décidé que ce serait une version format poche.
Et oui, pour inciter, accessible, en termes de tarifs.
Rendre accessible. Et d'ailleurs... La collection, elle existe aussi avec le soutien de la région Bretagne, donc il faut vraiment les en remercier. Hein. Il y a un dispositif d'aide au matrimoine à la région Bretagne, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc on essaye de faire des petits prix pour effectivement inciter. Il y a tout un travail aussi de médiation, normal.
Oui, hein.
On doit faire connaître ces titres-là. Donc moi je fais beaucoup de rencontres dans ce cadre-là. Jean-Marie est présent sur les salons et il fait aussi beaucoup de médiation. Mais c'est un travail au long cours, ça,
ouais.
Franchement.
Oui,
parce qu'il y a tellement de sollicitations, notamment de l'éducation nationale, sur des titres qui méritent tous d'être lus que. Voilà. Mais en tout cas, quand j'interviens notamment autour du roman Jeunesse épistolaire d'Yvonne Meynier, ça fonctionne très très bien. parce que c'est un roman épistolaire.
Oui, c'est plus facile à lire.
Donc
c'est des lettres.
Une lecture fluide. On plonge. En plus, elle parle de leur quotidien, donc c'est tout de suite très concret pour les jeunes.
C'est aussi une des questions que j'avais. Enfin, l'intérêt de cette collection, est-ce que c'est plus de montrer que les femmes ont un style particulier, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, autant de style que les hommes, ou est-ce que c'est plus de permettre aussi le récit des quotidiens des femmes, enfin, ou les deux, mon général. Hein, c'est peut-être tout ça.
Et ben, moi, j'ai envie de te dire les deux, mon capitaine, parce qu'en fait. Il y a à la fois le fait que leurs œuvres, quel que soit le genre littéraire qu'elles abordent, sont des œuvres vraiment passionnantes à lire.
Ouais.
Mais la deuxième chose, Alice Zeniter évoque souvent, et a raison, qu'on étudie beaucoup les hommes et moins les femmes.
Oui, ça c'est sûr.
Et moi, à force de les lire depuis 15 ans, très, 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 très souvent, je constate qu'elles elles ont une manière de parler du monde qui est vraiment située à la place des femmes. Mais leurs voix sont plurielles. Elles ne parlent pas toutes monde de la même manière. Mmh. Mais ça constitue une mémoire des femmes qui, si elles ne sont pas lues, est occultée, en fait. Or, que ce soit, qu'on soit homme ou femme, on a besoin de toutes les mémoires, en fait. Mmh. Et quand Fanny Raoul, en 1801, évoque la place des femmes dans la gouvernance, évoque l'accès des filles aux carrières des arts et des sciences, et que ces débats-là nous semblent toujours d'actualité 200 ans plus tard, peut-être que si cette mémoire était pérenne, il y a des sujets sociétaux qui évolueraient plus vite.
Oui, sans doute. Une excellente phrase de conclusion. Merci beaucoup Gaëlle Perel. J'invite tout le monde à consulter cette collection Les Universels aux éditions Guater et à réécouter ce podcast et les émissions que Gaëlle avait faites qui sont toujours en ligne sur le site internet de Transistor. Et donc, c'était Histoire de matrimoine. Merci.
Merci Véronique.